Je m'appelle Vincent Sol, je suis professeur de chimie organique à l'Université de Limoges et je suis donc enseignant-chercheur et directeur d'un laboratoire de recherche qui est le laboratoire Pérenne, alors qui est issu de la fusion de trois laboratoires, mais avant je m'occupais d'un autre laboratoire qui était le laboratoire de chimie des substances naturelles. Et donc moi j'ai une formation plutôt de chimiste bio-organicien peut-être, je suis à l'interface chimie-bio, je suis quand même chimiste organicien à la base, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui touche à la biologie et donc l'utilisation de la chimie pour des applications biologiques essentiellement, ce qui me permet aussi de voir un peu, ou en tout ce qui nous permet au sein du laboratoire, de voir un petit peu à partir de la biologie, essentiellement du monde végétal, nous on travaille beaucoup dans ce domaine-là, ce que le chimiste peut, entre guillemets, récupérer, extraire, modifier peut-être pour améliorer, et ensuite utiliser pour différentes applications. On associe souvent notre laboratoire à une partie qui est santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre axe qu'on développe au laboratoire qui travaille sur des biopolymères d'origine naturelle qui sont extraits du bois, par exemple, ou de certaines plantes. Et donc ces polymères, alors, le plus important, c'est de la cellulose, mais on travaille également sur d'autres, sur la lignine ou les hémicellulose qui est plus rare, ou plus compliquée. Il n'y a pas beaucoup de capacité à extraire cette molécule, mais en tout cas pas beaucoup d'endroits où on le fait à une échelle assez importante. Et donc sur ces biopolymères, on va les utiliser soit pour faire des matériaux, des biomatériaux, des surfaces. Ça peut être des plastiques, ça peut être des films qui sont en solution ensuite qui vont former un plastique. Et c'est où ils peuvent être ajoutés à d'autres composés, peut-être minéraux par exemple, pour donner différentes formulations. Et ces biopolymères voilà, sont extraits puis modifiés éventuellement. Donc ça, c'est une approche qui n'est pas uniquement santé. Et puis il y a une approche avec ces biopolymères qui peut être santé aussi, où on va les découper de manière plus petite et en faire des nanoparticules pour véhiculer éventuellement des principes actifs pour des applications santé, oui.
Oui, parce que j'ai vu en faisant quelques recherches que vous aviez dirigé des thèses qui s'intéressaient aux principes actifs anticancéreux. C'est ce dont vous nous parlez ici. Est-ce qu'on peut dire que le cancer est une maladie naturelle ?
Alors, je ne dirais pas naturelle. Naturelle, ça voudrait dire... Alors, il y a plusieurs peut-être réponses possibles. Je pense qu'il y a un effet environnemental important, alors qu'il peut être lié au stress, à la pollution... à l'exposition au rayonnement solaire qui provoque ensuite des mélanomes et puis d'autres types de cancers. Donc ça, je ne sais pas si c'est, on peut dire naturel, c'est-à-dire qui serait arrivé de toute manière. Par contre, il peut peut-être y avoir des cancers qui sont en tout cas sous-jacents, qui se déclenchent. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ce qu'on appelle les cellules souches, à un moment donné, qui vont basculer sous une forme de cellule cancéreuse ou pas. Qu'est-ce qui provoque ça ? Est-ce que c'est au niveau génétique ? Et là, effectivement, on peut, entre guillemets, le dire naturel, parce que c'est déjà prévu peut-être au niveau du code génétique lorsque l'on est. Ou est-ce que le code génétique est modifié par des agressions extérieures et qui enclenche la formation de cancer ? Ou en tout cas, moi, je n'ai pas assez de compétences dans ce domaine-là au niveau médical pour dire si c'est naturel ou pas. Mais effectivement, nous, on a une activité de recherche dans ce domaine-là, oui, au sein du laboratoire.
Pour justement à l'aide de la lumière, donc ce qu'on appelle la photothérapie.
Oui, tout à fait.
Depuis quand, est-ce que vous savez, depuis quand on observe... la lumière comme un moyen qui pourrait lutter contre le cancer ?
Alors, à l'époque, on ne savait pas que c'était des cancers. Ça date de l'époque des Égyptiens, où ils ont constaté que sur... alors, eux, ils faisaient une décoction à partir où ils se passaient sur la peau des papyrus, enfin des plantes qui poussaient au bord du Nil. Et sous la lumière, donc, il y avait une extraction qui se faisait naturellement en frottant, qui était au contact de la peau. Et en présence de lumière forte en Égypte, donc, il y avait des réponses à des pathologies, alors qui n'étaient pas identifiées à l'époque, j'imagine, comme cancer, mais en tout cas au niveau de la peau. Et donc, en fin de compte, la molécule qui était extraite à ce niveau-là, c'était des psoralènes. Alors ces psoralènes, ces molécules qui sont relativement toxiques quand même, hein, il faut faire attention, mais ces psoralènes sont des photosensibilisateurs très puissants, et donc voilà, c'est la première, mais c'était empirique, c'est-à-dire, bon là c'est un constat, ils ne savaient pas que c'était la lumière, ou en tout cas, je pense qu'ils ne pensaient pas que c'était la lumière qui jouait. Après, au début du XXe siècle, en Angleterre, ils ont commencé à regarder effectivement cette approche-là, et puis après, sur des bactéries en particulier, ils ont commencé à utiliser le bleu de méthylène, le rouge de méthyle, voilà, des molécules chimiquement qui étaient disponibles. Et c'est souvent l'industrie allemande, d'ailleurs, qui était leader dans le mondial à ce niveau-là. Donc, ils produisaient des hétérocycles qui étaient capables, sous l'action de la lumière, de produire de l'oxygène singulier, ou des ROS, en tout cas, des espèces réactives d'oxygène. Et puis après, là où la photothérapie s'est vraiment un petit peu démocratisée, et puis de manière assez précise, c'est vers 1960-1970 aux États-Unis, où Dougherty et Lipson ont travaillé sur le sang de bœuf, c'est-à-dire l'hématoporphyrine, qu'ils ont modifié chimiquement, purifié, et ils ont traité comme ça des pathologies cancéreuses. Mais là, ils avaient identifié des pathologies cancéreuses. Ils injectaient ça aux patients, et ça se répartissait dans toutes les cellules, saines et malades, et le patient était photosensible. Il devait rester à l'abri de la lumière pendant 3 semaines. Par contre, l'intérêt de traiter avec la lumière, c'est qu'on peut, si vous avez bien compris, le photosensibilisateur ou la porphyrine, ce n'est pas la molécule toxique, ce n'est pas le médicament. Il produit le médicament, qui est l'oxygène singulé. Le principe actif, c'est l'oxygène singulé. C'est-à-dire qu'on peut, avec la lumière, maintenant il y a pas mal de progrès qui sont faits avec des lasers, des fibres optiques, on peut amener directement la lumière sur le tissu malade. Donc même si on a une répartition un peu aléatoire des molécules dans d'autres organes, on peut activer, mais si on ne les éclaire pas, elles ne sont pas actives. Par contre, si on éclaire uniquement l'endroit que l'on veut traiter et qui est accumulé du photosensibilisateur, à ce moment-là, il y a une grosse production d'oxygène singulier, on peut traiter. D'accord ? Donc il y a une sélectivité qui est liée à ça, à la lumière. Puis nous, on essaye de mettre aussi sur ces molécules, finalement, la bonne clé pour ouvrir la bonne serrure, c'est-à-dire le bon agent qui va reconnaître la cellule cancéreuse et uniquement la cellule cancéreuse et pas la cellule saine, pour avoir un ciblage thérapeutique. Bah, je pense que le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de cancers différents. Il faudrait vraiment avoir une molécule qui peut-être ubiquitaire, qui puisse réagir sur différents types de cancers, mais c'est compliqué. Déjà, entre cancer solide, cancer liquide, il y a déjà des différences. Ça veut dire qu'il faut arriver à développer des molécules qui ciblent vraiment les cellules cancéreuses. Je ne sais pas si c'est qu'avec des molécules qu'on va y arriver aussi. Et donc, des fois, c'est très souvent, la photothérapie peut arriver comme complément, finalement. Ça ne serait pas une thérapie unique pour traiter un cancer, mais maintenant, on voit beaucoup d'associations de différentes thérapies. D'ailleurs, on le voit, souvent, il y a la chimiothérapie, il y a les rayons, il peut y avoir l'hormonothérapie, donc c'est souvent une association qui permet de détruire complètement la tumeur, parce que c'est compliqué, un cancer, c'est pas qu'une cellule qu'on vise, elle a colonisé un tissu, elle a peut-être métastasé ailleurs, donc voilà, je pense que le meilleur traitement actuellement, c'est si on le prend précocement avec l'acte chirurgical. C'est pour ça qu'il y a de la détection de cancer du sein chez la femme, du côlon chez l'homme. Si on les prend de manière très précoce, ou de la prostate même, si on les prend de manière très précoce, je pense que l'acte chirurgical peut être quelque chose qui marche bien, et ça c'est sûr. Après, voilà, il y a différentes stratégies. Après, on peut se poser la question, pourquoi des molécules, c'est souvent quand même les mêmes depuis 50 ans qui sont utilisées, hein. Je ne sais pas. Est-ce que les groupes pharmaceutiques ne veulent pas prendre de risques? Est-ce qu'ils ont une molécule qui, globalement, marche à peu près? Ils ne veulent pas mettre beaucoup d'argent sur des nouvelles, parce qu'ils ne savent pas trop si le bénéfice-risque est toujours compliqué. C'est pour ça qu'il y a différentes thérapies, stratégies de thérapie. Mais oui, je pense que c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué.
Pas mal d'éléments pas mal de questions pour un sujet très vaste. Moi, ce que j'ai pu constater dans vos recherches également, on commençait à en parler un petit peu tout à l'heure, c'est que vous n'appliquez pas simplement vos recherches au domaine de la santé. On parlait des molécules naturelles d'origine végétale, notamment appliquées au plastique, vous me disiez tout à l'heure. Le plastique étant un élément qui fait pas mal polémique aussi actuellement. Est-ce que c'est une façon de revisiter le matériel ou de l'améliorer ?
Alors, j'utilise le terme plastique parce que ça a l'allure du plastique ou les propriétés. Alors on essaye d'avoir les mêmes propriétés mécaniques, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est fait à base de polymères biosourcés, renouvelables et normalement biodégradables. Donc nous, ce que nous avions fait, c'était de partir de la cellulose finalement. Donc un polymère renouvelable à l'infini, hein, tous les ans il y a des plantes qui poussent, les arbres aussi, donc ça on peut y accéder assez facilement. Nous on était partis sur l'objectif de travailler plutôt sur les déchets de la filière végétale pour éviter en particulier d'être confronté à l'alimentation humaine, sur, par exemple dans les champs de maïs, ce qui restait, L'épi et le grain est utilisé pour l'alimentation humaine, mais voilà, les tiges, les feuilles, etc., c'est très riche en cellulose. Bon, c'est un exemple. Ça peut être la sciure de bois dans nos régions, voilà, qui n'est pas valorisée. Voilà, ça peut être lors de l'élagage. Alors bon, on en fait de la pâte à papier, mais peut-être qu'on ne fait pas toujours de la pâte à papier. Voilà, il y a des choses, une valeur ajoutée peut être intéressante. Donc à partir de la cellulose, on avait fixé de manière alors chimique, effectivement, mais une réaction assez simple, des acides gras à longue chaîne. Et donc, lorsqu'on avait fixé ça sur la cellulose, alors il fallait chauffer un petit peu, ça donnait une structure qui était finalement un aspect filmogène. Et donc, en améliorant un petit peu, on avait réussi à faire des structures qui avaient l'aspect du plastique, l'épaisseur. Alors, la couleur, c'était un petit peu marron quand on travaillait sur de la sciure, mais il y en avait qu'on arrivait à faire de manière complètement transparente. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme de plastique. Mais ce n'est pas des plastiques issus du pétrole. C'est des composés qui sont totalement biodégradables ou biosourcés. Et donc, nous, on avait fait des essais, voilà, de manière assez basique, en enterrant le plastique dans le sol et en regardant finalement s'il était dégradable au bout de tant de mois.
C'est ce qu'on appelle de la chimie verte.
Voilà, tout à fait. C'est les approches de chimie verte que nous développons au laboratoire. Alors, c'est la chimie verte, c'est autant de partir de la matière biosourcée et pour remplacer un petit peu les produits chimiques pétroliers, mais c'est aussi les méthodologies qui sont utilisées, c'est-à-dire aussi d'utiliser peut-être moins de catalyseurs coûteux, également d'utiliser des techniques d'activation des réactions chimiques qui sont très souvent très énergétiques. Éviter les solvants organiques aussi, hein, parce qu'il faut les retraiter derrière. Donc voilà, utiliser des solvants. Alors après, l'eau, il faut faire attention, parce que l'eau est certainement un des solvants qu'on considère le plus bio, enfin naturel. Le problème, c'est que quand on fait une réaction chimique dans l'eau, souvent l'eau, elle est pas très propre à la sortie. Donc elle est impure, donc ça veut dire qu'il faut la traiter. Donc ça a aussi des coûts, donc c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Il y a des règles qui avaient été données pour les 12 principes de la chimie verte, faire ce qu'on appelle l'économie d'atomes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une augmentation du nombre d'atomes entre les produits de départ et les produits finaux, même avec les réactifs qu'on rajoutait. Donc voilà, il y a des principes qui sont édités pour ce qu'on appelle la chimie verte, et on essayait justement de travailler sur ces approches-là, en partant de molécules qui étaient d'origine naturelle, végétale essentiellement.
Des molécules qu'on va chercher dans la nature et sur lesquelles on évite le plus possible l'intervention humaine après.
Oui, alors après, je pense qu'il y a quand même des procédés à faire parce qu'elles ne sont pas naturellement disponibles. Souvent, les molécules, elles sont mélangées à d'autres déjà, donc c'est déjà un petit peu plus complexe. Il y a beaucoup de travail de purification à faire, hein. Même sur des molécules qu'on consomme tous les jours et qui sont d'origine naturelle. Souvent, il faut quand même les purifier. En fin de compte, le problème, c'est que voilà, c'est la nature fait pour que les arbres tiennent droit. C'est bien structuré, c'est très solide, et donc c'est lié de manière souvent pas cohérente, c'est pas des liaisons très fortes, mais c'est très bien structuré, et donc il faut beaucoup d'énergie pour casser ces liaisons et récupérer les molécules. Donc par exemple la cellulose, c'est l'industrie papetière qui le fait bien, hein, globalement. Après il y a des organismes, des insectes qui le font naturellement et qui dégradent la cellulose, si on prend des termites, si on prend voilà, des choses comme ça, qui ont des enzymes pour le faire. Bon, nous, lorsqu'on extrait la cellulose, c'est souvent au niveau industrie papetière, c'est plus compliqué. Mais des extractions de principes actifs de plantes demandent souvent de la purification, hein, mettre dans un solvant, etc. Donc, c'est pas naturel. Peut-être, je sais pas, après le miel, un produit naturel, il y a quelques produits comme ça qui sont... Mais les molécules un petit peu plus compliquées, qui sont potentiellement des molécules même actives en santé ou en agro, bonnes pour la santé, qu'on rajoute maintenant à l'alimentation, hein, c'est des molécules, souvent il faut les. Sont compliquées à faire. Enfin, compliquées. Ouais, elles ne sont pas toujours très simples. Ouais. Si c'est des principes actifs de plantes, ce n'est pas toujours simple. Hein. Je pense qu'on regarde toujours la nature. Hein. Je pense que c'est une source d'inspiration qui est peut-être sans fin. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dont l'homme devrait s'inspirer pour essayer d'améliorer son quotidien. L'homme n'a peut-être pas encore tous les outils pour reproduire complètement comment est constituée la nature. Sinon, on pourrait se dire, on pourrait faire des choses, voilà, qu'on pourrait modifier. On parlait du cancer tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement arriver à éviter qu'il y en ait ? Je ne sais pas. Après, c'est peut-être naturel aussi, comme on disait. Hein. C'est peut-être la logique qu'à un moment donné, c'est une maladie voilà, qui arrive. Non, oui, je pense que l'homme, il va peut-être plus facilement récupérer des molécules issues de la nature plutôt que de copier systématiquement la structure, même s'ils s'en inspirent. Je pense que c'est déjà comprendre. Avant de pouvoir essayer de reproduire, il faut comprendre comment ça marche. Et après, essayer de reproduire comme la nature le fait. Mais comprendre comment ça marche, c'est déjà... Il y a beaucoup d'inconnus encore. Hein, donc, hein. Les fêtes de la science, c'est souvent destiné d'ailleurs aux enfants, aux collégiens, lycéens, ou même des jeunes d'école primaire. Il faut leur laisser découvrir. Je crois qu'il faut qu'ils découvrent par eux-mêmes. Je pense que voilà, même si quelqu'un n'est pas intéressé par la science à un moment donné, peut-être qu'il reviendra un petit peu plus tard dans ses études. Puis bon, voilà, après, on peut bien s'épanouir sans être de culture scientifique et s'y intéresser un petit peu plus tard. C'est une excellente formation, l'observation de la nature, et c'est l'objet un petit peu de ces journées de la science. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer très simplement. Et puis se poser quelques questions, ça fait pas de mal aussi, de temps en temps. Voilà.